votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
Bonjour Dr Quash.
Bonjour Madame Gaudreau.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Si vous me permettez de commencer avec la nouvelle la plus récente, parce que je sais que vous en avez déjà discuté avec notre collègue Patrick Lagacé de ces nouveaux tests de salive. Radio-Canada nous dit que ce matin qu'il y a deux hôpitaux qui seraient sur le point d'utiliser ces tests-là pour dépister la COVID-19. Et corrigez-moi, Dr Quash, en entrevue avec Patrick, vous aviez dit que oui, c'était bien ces tests-là, mais plus difficile pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Est-ce que je vous ai bien compris?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, à l'époque, ce qu'on demandait, c'était aux gens de cracher. Et ce dont on se rend compte, c'est que les petits-enfants, même jusque vers l'âge de 7-8 ans, ont beaucoup de difficultés à cracher suffisamment dans un petit tube. Puis les personnes âgées, elles, tout ce qu'elles faisaient, c'était souffler dans le tube. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est aller chercher la salive autrement. Et donc, on est en train d'évaluer aussi à Sainte-Justine la possibilité de le faire, mais juste avec un écouvillonnage. Donc, ça s'en vient. Probablement qu'éventuellement, pour les jeunes enfants et les personnes âgées, on pourra aussi éventuellement utiliser la salive. Il faut savoir que dans la salive, c'est un peu moins sensible que quand on va le chercher dans le nez. Mais c'est un petit bémol là, qu'on est prêt à prendre là, pour être capable d'en faire davantage puis de le faire de façon répétée parce qu'évidemment, quelqu'un qui va se faire écouvillonner le nez, par exemple, à toutes les semaines parce qu'il travaille en CHSLD, ça devient désagréable à la longue. C'est le moins qu'on puisse dire.
OK. Mais donc, en termes d'efficacité, Dr Quash, est-ce que c'est équivalent à ce qui se fait actuellement?
C'est à peu près équivalent quand on l'envoie dans les laboratoires, là, c'est-à-dire que ce ne sont pas des tests rapides, mais que ce sont bien des tests par PCR. La sensibilité est assez bonne. On en perd un peu, mais bon, je pense que, comme je vous dis, là, c'est pas aussi parfait, mais c'est presque aussi parfait. Fait qu'on est capable de vivre avec cette petite perte de perfection.
OK. Dites-moi, Dr Quash, dans l'article de Radio-Canada de ce matin, on dit que si on tarde un peu à donner le feu vert, c'est entre autres parce que on manque de personnel à l'Institut national de santé publique pour compléter les projets de validation et compiler les données. Et on disait que cet été, il y avait pas assez de patients atteints de la COVID. Est-ce qu'il y a un des deux problèmes qui est réglé? Est-ce qu'on a assez de patients? On aurait assez de patients pour le faire actuellement?
Ben, je pense qu'il y a pas mal d'études il y a eu une grande étude qui avait été faite cet été à Laval et dans la région de Montréal. Ces données-là sont en train d'être compilées. Je ne sais pas où est-ce que ça en est. Je ne fais pas partie du groupe. À savoir si l'INSPQ et l'INES sont capables de rendre le rapport de final, j'en ai aucune idée non plus. Des patients, on commence à en avoir davantage, malheureusement. Et donc, en tout cas, en pédiatrie, nous, on continue à valider là au fur et à mesure que les patients se présentent quand ils nous donnent la permission d'aller chercher d'autres choses que leur écouvillonnage nasal. Donc, je pense que ça devrait s'en venir sous peu, là.
OK. Hier, Dr Quash, je mettais la main sur cet article et c'est là où j'ai interpellé mon recherché. Le fait qu'on voulait vous parler ce matin, on disait et c'est des recherches là, dans le New England Journal of Medicine et le Journal of General Internal Medicine qui dit que porter un masque pourrait empêcher une éventuelle infection par le coronavirus de dégénérer en maladie trop sévère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
En fait, ce que les auteurs disaient, puis c'était ce sont basés sur des observations. Ce qu'ils disaient, c'est qu'effectivement, quand les gens portaient tous un masque dans un endroit où il y avait une éclosion, ils avaient l'impression qu'il y avait moins de maladies graves et plus de patients qui étaient asymptomatiques mais porteurs du virus. Et donc, ce qu'ils disaient, c'est est-ce que quand on a un masque devant le nez, ça diminue la charge virale qu'on inspire, ce qui fait que même si on en avait inspiré assez pour être malade, la quantité était moins grande et donc en bout de ligne, on avait moins de complications puis moins de symptômes finalement. Ce qui est possible, je pense que depuis le début, on pousse surtout le port du masque maison ou du couvre-visage en disant que c'est pour protéger les autres. C'est sûr qu'il y a une part de protection individuelle qui est possible, mais comme ce sont pas des masques normés, tu sais, il y a personne qui a fait des tests sur les masques maison pour dire si telle sorte de coton, deux épaisseurs ou plus ou moins une troisième épaisseur, vous allez être protégé à X%. On n'a jamais voulu dire aux gens que s'ils le portaient, il y avait une chance X d'être protégé. Par contre, on sait que si on porte un masque de procédure, là, les masques en papier bleu qu'on porte tous dans les hôpitaux, ça offre une protection individuelle certaine parce que c'est ce que le personnel porte quand il soigne des patients avec coronavirus. Donc, il y a cette cet élément-là. Ce que je disais aussi dans l'article, c'est que la plupart du temps, quand on attrape notre coronavirus, c'est pas quand on a un masque dans le visage. C'est habituellement quand on s'assoit pour manger avec des proches ou qu'on va dans un lieu intérieur fermé, qu'on enlève le masque et là, on passe 1h30, 2h à jaser avec les autres, à manger. Et de façon générale, là, on le voit, là, c'est ce qui est rapporté présentement. C'est dans ces moments de contact rapprochés, sans masque, où finalement on se contamine.
OK, parce que puis vous l'expliquez également dans l'article hier, ce qu'on ne sait pas quand on fait l'infection, c'est si nos anticorps et si notre réponse immunitaire, c'est assez bon pour du long terme. On n'en est pas encore là, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Hein?
Exactement. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, mon groupe de recherche est en train de recruter des gens là, qui ont déjà fait la COVID et on les suit pendant un an pour voir qui est-ce qui va se réinfecter. Puis, on suit aussi la réponse de leurs anticorps puis de leur système immunitaire, justement pour aller en comprendre davantage parce que certains papiers semblent dire que oui, il y a un risque de réinfection, mais avec une infection qui est très légère. Et il y a un autre cas qui a été rapporté où cette personne-là avait fait une première infection presque asymptomatique et quand elle l'a refaite 4 mois plus tard, elle a été hyper malade aux soins intensifs. Donc, il faut essayer de comprendre là, quel est le risque de réinfection. C'est peut-être hyper rare, puis tant mieux. Mais quand ça survient, est-ce qu'on est protégé contre une infection grave ou au contraire, on est à risque d'en faire une plus grave? Donc, c'est tout ça qu'il faut aller explorer.
Dites-moi, Dr Couache, vous qui travaillez au CHU Sainte-Justine, si on parle des enfants, on regarde, vous vous adressez ce matin aux gens de la Mauricie, Centre du Québec. Chez nous, actuellement, ça va bien. On est toujours dans la couleur verte. Dans nos écoles, oui, il y a quelques cas. Mais même si on fait un portrait global au Québec, là, chez les enfants, est-ce que je me trompe ou ça va relativement bien? Est-ce que
non,
votre constat est le même? Oui.
Tout à fait. Même encore aujourd'hui où Montréal vient de retomber en zone jaune, on a un patient hospitalisé. On en a, de façon générale, on en a eu maximum 4, mais quand on en a eu 4 en même temps, souvent ils étaient hospitalisés avec leur COVID, pas à cause de la COVID. C'est parce qu'on devait les enlever d'un milieu intermédiaire, par exemple, où ils pouvaient pas les garder, malgré le fait qu'ils pétaient le feu. Là, ils se demandaient quand est-ce qu'ils s'en allaient chez eux. Mais donc, de façon générale, les enfants sont très peu malades. On a eu quelques cas de syndrome inflammatoire, le post-COVID, qui ont été rapportés ailleurs. Mais ces enfants-là vont bien aussi. On n'a eu aucun décès. Vraiment, là, jusqu'à maintenant, au Québec, ça se passe très bien pour les enfants, puis au Canada aussi, de façon générale.
Ouais. Dr Couache, en terminant, je vais vous faire entendre un extrait. Hier, je jasais avec Dr François Marquis, que vous connaissez bien, qui, bon, avec lui, on a parlé un peu du point de presse d'avant hier, des autorités, le ton, nous disant de faire attention, des rassemblements, et on a parlé un peu des manifestations, parce qu'il en a été question dans le point de presse. Voici ce que Dr Marquis nous disait, puis par la suite, je veux votre réaction.
Bien, tu sais, je pense que depuis le début de la pandémie, on a essayé d'utiliser un ton où le citoyen le citoyen était considéré comme un allié là-dedans. Et ça a fonctionné avec 95, 96, 99% de la population. Puis on reste pris avec des irréductibles. C'est certain que c'est excessivement frustrant quand c'est depuis le début de la crise. Toi, tu donnes ton 110%, puis là, tu te fais comme chicaner un peu. Là, on s'entend qu'il était pas content. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut changer de ton, il faut aller chercher ceux qui sont en train de saboter ce que la majorité du Québec a fait. Et ça, faut comprendre, moi, si j'étais à sa place, là, j'aurais peut-être pété ma coche bien avant, là. Parce que tu as un groupe de personnes qui se dédient à essayer de diminuer l'impact d'une catastrophe sur une province. Il y a une partie incroyable de la population qui suit et tu as des saboteurs et des saboteuses. T'as des gens qui, clairement, s'amusent à faire le contraire.
Dr Couache, sans peut-être utiliser les mêmes mots, le rejoignez-vous? Est-ce que le ton d'avant-hier était nécessaire pour faire comprendre les choses?
Oui, si les gens écoutent, parce que encore une fois, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ceux qui sont anti-masque et anti-toutes les mesures sont nécessairement à l'écoute de ce qui se dit. Et donc, parfois, on a l'impression qu'on prêche aux convertis, là, mais il faut réussir à rejoindre ce groupe-là. Puis honnêtement, c'est très difficile. Il semble y avoir une chambre à écho complètement séparée où on ne se parle pas finalement.
Dr Couache, merci d'avoir été là ce matin.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, au revoir à vous aussi. Dr Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Donc, elle travaille au CHU Sainte-Justine.